Bien, bonjour. Donc, je me présente, Emmanuel Roux. Je suis professeur d'appui, ce qui, dans le contexte national, est en fait professeur référent dans un ex-réseau Ambition Réussite, maintenant Éclair. Voilà, et ce que je vais essayer de présenter, c'est un petit peu l'articulation entre une logique d'action et de formation. Plutôt le passage d'une logique à une autre logique, voilà, qui s'est faite, j'irais sur des questionnements qui sont quand même pas récents du tout, mais avec un déclenchement qui est un peu lié à l'IFE, puisque voilà, j'étais pas plus tard que la dernière en formation, voilà, à l'IFE, et que cette présence a déclenché un écrit qui a fait qu'on a un petit peu coucher sur le papier des idées qui sont allées un peu plus loin que les questionnements qu'on avait antérieurement. Donc je vais pas mal parler à la première personne, hein, c'est pas une question de se mettre en avant, mais c'est aussi de voir comment un parcours personnel peut interroger les problématiques qu'on rencontre dans l'éducation prioritaire. Donc mon parcours, moi, on parlait de profs normaux, voilà, je fais partie des profs normaux, après la présidence normale, il y a aussi le prof normal. J'avais pas forcément une vocation à enseigner, hein. J'ai passé les concours, je me suis présenté à des concours à un moment de ma vie où je ne savais pas trop ce que faire, et puis j'ai fait partie à l'UFM des profs qui ont eu le droit à une deuxième visite parce qu'on ne les trouvait pas vraiment brillants, donc voilà. Balancé, on va dire, en éducation prioritaire dès la première année. Et il y avait tout à l'heure, là, en regardant les vidéos au Néopass, un prof expérimenté qui disait « Je crois me revoir dans une vidéo ». Alors, sans me vanter, je pense que je me retrouve à peu près dans toutes les vidéos. Voilà. Donc, 12 années en tant que professeur de mathématiques et 6 années supplémentaires en tant que professeur d'appui, mais toujours en conservant une classe. De troisième au début, puis de sixième. Donc voilà, ça fait 18 ans que je travaille en éducation prioritaire. Entre-temps, je suis retourné à l'université, parce qu'il a fallu quand même je me pose des questions un petit peu sur le métier. Quand j'ai commencé le métier, j'avais des élèves un petit peu partout, sauf sur leurs chaises, hein, sous les tables, collés au plafond, mais pas là où il fallait en tout cas. Donc il y a eu un vrai questionnement dès le début, hein, de savoir si on continue dans le métier ou si on y rentre réellement. Et puis, à force d'y rentrer un petit peu, j'ai fini par retourner à l'université pour passer un master de formateur. Je suis retourné aussi faire un peu de sociolinguistique, toujours à l'université avec Elisabeth Potier. Bien. Pour quelles actions? Alors, il manque une diapo, je vais vous la donner. C'est en fait un réseau, la diapo qui a sauté. Le réseau, c'est un réseau d'un collège avec 3 écoles élémentaires et 3 écoles maternelles. Les moyens, c'est 2 profs d'appui. Alors, un prof issu du second degré, moi-même, et puis une collègue issue du premier degré. Pour la première année, je suis tout seul, c'est-à-dire que le poste qui a été libéré la dernière n'a pas été pourvu. Et nos actions sont appuyées aussi par 6 assistants pédagogiques. Donc c'est des moyens qui ne sont pas du tout anodins. Hein. Si on compare par exemple avec un réseau de réussite scolaire, hein, où il y en a un autre sur Chanteloup, où il y a un seul assistant pédagogique. Alors pour quelles actions on avait 2 dispositifs. Là je vous décris les dispositifs tels qu'ils existaient jusqu'à l'année dernière. Et ils sont encore en cours pour certains d'entre eux. Donc des modules d'enseignement massé sur le premier degré, c'est un petit peu ce qui est dérivé des maclés d'André Ouzoulias. Donc l'idée de rassembler un maximum de moyens humains sur des périodes de 2 à 3 semaines. Et puis des pôles interdisciplinaires sur le second degré, c'est-à-dire sur le collège. On libère un petit peu de temps sur les enseignements traditionnels, maths, français, histoire, géo. Et on va faire des pôles comme pôle littéraire, pôle scientifique, pôle linguistique, où on va regrouper des disciplines et on va travailler sur des compétences communes avec des thèmes de convergence. Alors, je présenterai pas du tout les pôles interdisciplinaires sur le second degré parce qu'on dépassera de trop le temps qui est imparti. Je vais m'attacher finalement à montrer ce qu'on faisait un petit peu sur le premier degré et voir un peu comment on a modifié les choses sur le premier degré, puisque la modification sur le second degré qui est maintenant appelée du pied par les pilotes n'a pas encore eu lieu. Derrière tout ça, il y a un fil rouge, donc qui sont des gestes professionnels partagés. Je vais souligner quand même l'adjectif partagé. On voudrait qu'ils soient partagés. Soyons clairs là-dessus, c'est-à-dire que ça ne signifie pas qu'ils sont partagés par tout le monde. C'est que on avait des convictions déjà lorsqu'on a mis ça en place avec notamment l'inspectrice de circonscription, des convictions sur, vous savez, les bonnes pratiques. Et c'est ça qui va faire question aussi dans la modification du mode d'action. Alors, les modules d'enseignement massé, je vais passer assez vite dessus, parce que ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les modalités d'action et de voir comment on interroge le métier. Donc, on a des enseignements massés sur l'école primaire, à la fois sur l'élémentaire et sur la maternelle. Et dès le début, moi j'étais assez d'accord pour mettre l'accent sur les maternelles. Donc on a pas mal de modules en maternelle qui sont conservés. Donc un sur compréhension, graphisme, consigne, ça c'était l'année dernière, ça s'est modifié cette année. Un sur la numération avec les jeux de société. Et un autre sur la compréhension, le code et la phono. L'année dernière, on avait aussi un module CE1 sur les mathématiques, mais on le centrait sur le calcul réfléchi, numération, résolution de problèmes. La même chose sur le CE2. Et puis un module de CM2, deux modules de CM2, un sur le rapport aux apprentissages, compréhension de texte, narration de recherche en maths, et puis en fin d'année, sur le renforcement français et mathématiques. Voilà. Alors, ça, c'est toute l'action des profs d'appui, des assistants pédagogiques sur le premier degré. Je précise une chose, c'est que les modules CE1, CE2, calcul réfléchi, numération, il y a 3 ans, ils n'étaient pas sur les mathématiques, ils étaient sur la compréhension en français. Alors, comment ça se déroule? On a un travail sur des compétences ciblées, on essaye d'évaluer les élèves de façon assez carrée, c'est-à-dire qu'il y avait des évaluations diagnostiques, on cible déjà les compétences. Et ces compétences-là, elles ont été préalablement repérées, donc en accord toujours avec l'inspectrice de circonscription, sur l'analyse des évaluations nationales, voir la façon dont elles avaient été plus ou moins réussies. Et ensuite, l'idée, c'est de répartir les élèves en groupes de compétences, et puis de travailler pendant 2 à 3 semaines, suivant les modules, sur ces groupes de compétences. Un groupe de compétences, ça va de 4 à 7 élèves. La prise en charge sont les maîtres, en fonction du fait qu'ils aient un double niveau ou pas. Nous, les enseignants d'appui et les assistants pédagogiques. Donc tout ça, c'est défini avec l'inspectrice de circonscription. Mais ce qu'on peut apporter, nous, en tant que prof d'appui, c'est le regard vraiment premier, second degré. C'est-à-dire quelles compétences ont échoué à chaque niveau, pourquoi, et de voir aussi, l'aspect longitudinal dans la scolarité des élèves, d'essayer de repérer un petit peu des points de convergence entre ce qu'on peut observer dans les difficultés d'apprentissage des élèves au collège et ce qu'on peut observer dans ce qui est raté dans le premier degré. Donc tout ça, ça se fait avec une assez bonne articulation. Donc on a un travail en réseau qui est, je dirais, plutôt serein, plutôt efficace, avec les cordeaux et puis l'inspectrice. Donc l'évaluation des diagnostics des élèves, voilà, c'est pour vous montrer très, très vite fait, là, sur calcul mental. Donc on a un certain nombre de compétences, et sur lequel... Alors, soit on se sert en fait des évaluations continues, enfin de contrôle continu des enseignants, soit on prévoit des évaluations spécifiques sur des compétences qui n'ont pas été évaluées ou pas suffisamment évaluées. Et une fois qu'on a fait ceci, eh ben on fait nos petits groupes de compétences on met un petit résumé prescriptif hein, sur ce qu'il faut travailler. Et là, ensuite, les groupes sont pris en charge. Donc, avec les assistants pédagogiques et puis les enseignants. Alors, ça nécessite une expertise disciplinaire. On le fait que sur, je dirais, les champs qu'on maîtrise. On demande aux assistants, aux enseignants de mettre des gestes professionnels précis. D'accord, j'y reviendrai tout à l'heure. Et l'idée, c'est de faire des retours réguliers aux enseignants, donc tous les jours, voilà, sur les élèves, en particulier avec un certain nombre de bilans aussi oraux et écrits. Alors, la prise en charge des groupes, c'est systématiquement une prise en charge de la grande difficulté scolaire par les enseignants, enseignants d'appui ou enseignants des classes. Donc jamais les assistants pédagogiques qui sont eux systématiquement en charge, la plupart du temps en doublette d'ailleurs, et parfois sous notre contrôle, de groupes d'élèves qui sont les plus en réussite. Alors ce qu'on a réussi à négocier ces dernières années, c'est un peu de concertation pédagogique. Donc ça allait jusqu'à 6 heures, hein, de 3 à 6 heures en fait. C'est-à-dire que l'inspectrice a accepté que sur les 18 heures d'animation pédagogique que devaient faire les enseignants des écoles, qu'il y ait 3 à 6 heures qui soient prises et qui soient assurées par les profs d'appui. Alors j'y reviendrai dans le bilan un peu plus tard, mais c'est quelque chose qui n'a pas eu du tout l'effet escompté en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on se plaignait du manque de temps de concertation. Mais là, il y a une vraie question et je la laisse un petit peu en suspens, mais c'est pas qu'une question d'heure, quoi. C'est pas qu'une question de temps. Ça se fera écho un petit peu à ce qui a été vu ce matin avec la plateforme Néopas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place pour avoir une formation efficace et pour pouvoir diffuser et à la fois, je dirais, créer du débat sur les pratiques et puis exposer la question des gestes de professionnels qu'il faudrait ou qu'il ne faudrait pas diffuser. Donc on a des documents de cadrage hein, qui sont écrits, là encore c'est très très précis, c'est-à-dire qu'à la fois on détaille, je dirais, les contenus, on détaille les outils qui vont être utilisés, et puis on détaille aussi les gestes professionnels qu'on souhaiterait voir mettre en place. Donc tout ça, c'est distribué à tout le monde, aux assistants et aux enseignants. Alors, concernant les assistants pédagogiques, qui sont en général des étudiants, qu'on essaie de recruter avec un profil de préférence, un profil d'étudiants qui se destinent au métier de l'enseignement, on n'y arrive pas toujours. Il y a nécessité vraiment de les former. Donc on a tous les temps libres qu'on a en début d'année sont vraiment dévolus à leur formation, avec des séances d'analyse de pratique, beaucoup de débriefing et beaucoup de préparation. Alors, geste professionnel partagé, ça, donc je mets bien en guillemets, hein, partagé, mais c'est ce qu'on essaye vraiment de mettre en place hein, sur les deux degrés. Donner du sens à la tâche, vraiment détailler les savoirs, les compétences visées. Et le gros fil rouge, c'est l'explicitation. L'explicitation, on travaille pas mal sur les implicites, les malentendus scolaires, donc en particulier la nature de la tâche, c'est des choses qu'on voit très très tôt en maternelle, ce type de malentendus scolaires. Donc on travaille beaucoup sur l'étayage, donc quand je dis faire comprendre, faire dire, faire, ça c'est vraiment piqué à Dominique Bucheton, hein, dans son multi-agenda, et c'est vraiment ça l'étayage, et avec la difficulté qu'on connaît quand on pratique au jour le jour, c'est-à-dire que la frontière est vraiment ténue entre faire comprendre, faire dire, et puis dire à la place de l'élève et faire à la place de l'élève. Il y avait des vidéos ce matin là que j'ai visionné qui montraient bien le débat qu'il y avait là-dessus, y compris entre les enseignants expérimentés. Le Le gros du gros, c'est ça, c'est l'explicitation des procédures proposées par les élèves. C'est-à-dire qu'on profite d'avoir des petits groupes de compétences pour, au maximum, les faire verbaliser et rendre transparente la plupart des procédures. C'est-à-dire qu'on fait finalement, on préfère faire peu dans ces modules sur une heure et au maximum faire expliciter les élèves. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je veux dire, aussi bien lorsque les résultats je veux dire, sont attendus, c'est-à-dire que lorsque on est dans l'erreur. Et quelque chose qui est aussi très important, c'est le renforcement du rôle de l'erreur dans les apprentissages. On travaille pas mal avec des travaux d'élèves fictifs. Voilà, et on essaie de voir un petit peu ce qui s'est passé ou ce qui a pu se passer dans la tête des élèves pour qu'ils réussissent la tâche ou savoir pourquoi ils l'ont échoué. On a mis aussi en place sur le réseau un cahier d'essais qui est pratiquement mis en place partout dans toutes les écoles, un espèce de gros cahier de brouillon où on gomme rien, on rature rien, on laisse un petit peu toutes les traces des démarches des élèves. Voilà, alors je suis allé assez vite là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quelque chose, c'est un modèle, je pense, d'action qui est assez prescriptif en fait. C'est-à-dire que jusqu'ici, voilà, c'est très cadré. C'est aussi une machine assez bien huilée. C'est plutôt bien vu de l'extérieur, en tout cas, c'est bien vu par notre hiérarchie. Ça tourne bien, voilà. Et nous, en tant que prof d'appui, on n'était pas très satisfaits, en fait. C'est-à-dire qu'un moteur qui tourne, ben voilà, c'est finalement on en trouve. Dire comment il tourne, hein, est-ce qu'il a un bon rendement, est-ce que il a les effets attendus, ça c'est autre chose. Et ce qui nous intéresse pas mal, c'est un petit peu tous les grains de sable, hein, c'est-à-dire tout ce qui va pas un petit peu dans la machine. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on s'interroge tout le temps, même si finalement il y a beaucoup de satisfaction de la part des... en particulier, on a beaucoup d'IAIPR qui viennent voir ce qui se fait. Bon, voilà, ils sont très intéressés, ils trouvent ça plutôt pas mal. Mais on a aussi la chance d'avoir des IPR qui sont un peu taquins, qui nous posent des questions un petit peu dérangeantes. Donc ça nous aide bien à mettre en évidence tous ces grains de sable-là. Voilà. Et je vais peut-être passer un petit peu au bilan. Donc on a des bilans successifs qui se confirment. Alors là, moi, ce que je vais mettre plutôt en évidence, c'est un petit peu ce qui va pas, ce qui nous satisfait pas finalement. Bon, globalement, on a des améliorations assez sensibles qui nous sont formulées par les enseignants du premier degré. C'est-à-dire que ils sont majoritairement, on va dire, satisfaits, mais c'est qu'à certaines conditions. Certaines conditions, déjà, je veux dire, avant de détailler un petit peu ces conditions-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des améliorations dans certaines classes qui sont sensibles sur un temps donné, c'est-à-dire juste après le module. C'est-à-dire qu'on a généralement des collègues qui nous disent, voilà, là, ces élèves-là, ça les avait vraiment boostés. On a plus de mal, finalement, à confirmer ça sur le long terme. Voilà. Les conditions, c'est aussi, je dirais, le gros problème, c'est ça dépend aussi des enseignants eux-mêmes. Donc on le verra. Des difficultés à faire le lien entre le temps des modules, le temps de la classe. C'est-à-dire que l'articulation en amont du temps des modules, alors qu'il est programmé, on a un planning qui est édité même dès le mois de juin en général, qu'on donne comme ça aux enseignants. On a tout un tas de collègues parfois qui ne le prennent pas en compte, hein, dans leur progression, d'autres qui le prennent en compte, et effectivement les effets sont bien différents suivant qu'il y ait anticipation ou non de cette période de module, c'est-à-dire de savoir comment on va programmer ces apprentissages en sachant que ce module est déjà programmé dans l'année. Mais c'est déjà une question, ça, le fait qu'il soit programmé à l'avance, ça peut déjà être un problème de se dire que pourquoi il y aurait déjà un module qui serait programmé au mois de février, un temps fort, pourquoi à ce moment-là, voilà, déjà ça nous faisait question. Donc là, il y a vraiment une question sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne tous ensemble, c'est quelle politique de projet en ZEP. Voilà, et ça, j'ai une bonne expérience de ce que c'est que les projets de ZEP, pour en avoir tellement fait et pour avoir tellement participé. Et il y a projet et projet, quoi. Donc peu d'efficacité, hein, quand les enseignants ne sont pas pleinement partie prenante. Et ça, tous les ans, on a rencontré des enseignants qui étaient plutôt réfractaires, qui avaient plutôt le sentiment que c'était un peu imposé par l'inspection. Voilà, qu'ils étaient un petit peu obligés de faire ce module. Beaucoup de difficultés à transférer certaines pratiques en classe, c'est-à-dire que ce qu'on pouvait faire en module, c'était pas toujours simple, hein, de le refaire en classe entière, c'est-à-dire les techniques d'explicitation qu'on maîtrisait bien sur des groupes de 4-5 élèves, y compris lorsqu'ils étaient en très grande difficulté. C'est peut-être pas toujours facile finalement de le faire en classe entière. Donc, ce qui est fait en dispositif particulier, voilà, est-ce qu'on peut le faire en classe, hein, ça aussi c'est une question. Et puis des difficultés aussi pour mutualiser, pour instaurer un débat pédagogique. Ça, c'était vraiment une vraie difficulté. Alors, ce que j'ai mis en sous-titre, c'est une certaine insécurité. Et ça, c'est un sentiment profond que j'ai de plus en plus, et peut-être plus sur le premier degré que sur le second, c'est d'avoir de travailler avec des enseignants qui sont en insécurité, c'est-à-dire qui sont pas sûrs de ce qu'ils font, qui ont toujours le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va leur dire que c'est pas ça, c'est pas comme ça. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement prégnant. Donc, ce à quoi on s'est attaché, un petit peu avec ma collègue l'année passée, ma collègue professeure d'appui issue du premier degré, c'était un petit peu de se pencher là-dessus. De se dire, voilà, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui fait que finalement, ça ne fonctionne pas tel que nous, on souhaiterait. Et comment on peut basculer sur une autre logique d'action. Quel levier pour agir sur les pratiques enseignantes? Déjà, est-ce qu'il faut agir sur les pratiques enseignantes? On parlait des fameuses bonnes pratiques. Je suis pas sûr qu'il y ait... Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mots. Souvent, c'est ce que je dis dans le réseau. Alors, c'est pas vraiment ce que je crois. Il y a un côté diplomatique là-dedans, mais souvent, ce que je dis, il n'y a pas de mauvaise pratique en soi. Mais c'est pas seulement complètement diplomatique. C'est-à-dire que, mais des pratiques potentiellement différenciatrices. Déjà, quand on le dit comme ça, c'est un peu différent. Et je crois que ça recouvre quand même une réalité. L'idée déjà de l'énoncer comme ça, c'est effectivement aussi dans l'idée de pas trop juger, de voir qu'on fait comme on peut souvent, et que il y a juste à attirer l'attention sur ce qui peut être différenciateur. Quelle stratégie d'action pour nous les professeurs d'appui, donc professeurs référents, assumer des choix, comment se positionner? On avait vraiment une position, je pense, de prescripteur, relais de l'inspection. Ça c'était le positionnement un petit peu tel qu'il s'était installé naturellement, sans qu'on y fasse attention. Ça aussi, ça nous a questionné. Il a fallu essayer de penser à savoir s'il fallait pas se positionner autrement. Quelle stratégie de formation sur le terrain? L'efficacité de la formation? Oui, une question ancienne. C'est vraiment une question qui me taraude, moi, en tant que formateur, même hors éducation priori, enfin, je veux dire, hors réseau, hors, voilà. C'est de savoir que souvent on apporte du contenu, on apporte de l'information, mais je veux dire, l'ambition de la formation, c'est bien de transformer quelque chose. Et c'est souvent ça, en formation, qu'on a du mal à réaliser. Et donc, il y avait aussi à un petit peu se creuser la tête sur la stratégie de formation sur le terrain, c'est-à-dire celle qu'on a au jour le jour, pas forcément sur des animations pédagogiques. Et puis, la question de la professionnalité enseignante. Alors, les conceptions, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on est face à des enseignants qui ont tous leur propre conception de un petit peu du métier, avec quand même un métier assez individualiste, je pense, assez en France. Et voilà, je veux dire, est-ce qu'il y a moyen d'agir là-dessus? Alors, face à ce questionnement, on est parti d'un certain nombre de principes de réalité. Voilà. Alors, tous ces principes de réalité, ça va paraître des lapalissades, mais comme disait Michel Serres, souvent la lapalissade, il ne faut pas s'en moquer, parce que c'est souvent une pierre angulaire de la construction intellectuelle. Il faut bien démarrer par quelque chose, et finalement, je suis assez d'accord avec ça. Donc, l'essentiel des apprentissages, c'est ce qui se fait dans la classe normale. Alors, j'ai mis où l'illusion des à côté pédagogiques. Ça, c'est vraiment une réflexion, je dirais, de quelqu'un qui a un petit peu de bouteille dans les projets pédagogiques. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses en éducation prioritaire. Je dirais que là, il y a une vraie culture de projet, et souvent avec des projets, des dynamiques de projet, et ça devient même souvent très concurrentiel, hein, je veux dire, entre les enseignants, de savoir, voilà, moi j'ai ça, on va essayer d'en donner un petit peu pour tout le monde. Et que parfois avec l'illusion que la réussite elle va se faire sur ce qu'on va mettre en place à côté, c'est-à-dire hors la classe. Oui, mais le temps que passent les élèves, je veux dire en apprentissage, c'est bien dans la classe. C'est bien dans la classe, souvent avec leur maître. Donc il y a vraiment à réinterroger ça. On ne pourra pas faire sans les enseignants, malgré eux. Donc il y a eu un moment où pour nous il y avait l'idée d'objectiver un peu les freins enseignants, de se dire mais pourquoi avec tel collègue ça freine, pourquoi on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on souhaite. Donc vraiment être un petit peu à leur écoute et d'essayer un petit peu d'objectiver les choses. Il y a aussi ce problème des contraintes de classe et cette opposition souvent qu'on voit entre recherche pédagogique et puis pratique de classe. Tout n'est pas possible. Il y a même parfois de la défiance. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'on vient avec des ressources de recherche et qu'on dit, ben voilà, il y a une étude qui montre, oui, mais bon, c'est gentil, hein, ton truc, hein, ton étude, mais moi, je fais la classe au jour le jour et ça se passe pas comme ça. Comment je m'en sors là avec des élèves qui ont du mal à se concentrer, qui rentrent pas du tout dans les apprentissages. Donc là aussi, partir des contraintes de classe et de se dire que tout n'est pas possible, c'était un petit peu une nouvelle orientation pour nous. L'idée que le métier est de plus en plus difficile, ça c'est quelque chose qui est dans, je crois que c'est Christine Félix, hein, là, dans une des vidéos de Néopass, qui le dit bien, qui dit mais finalement c'est pas tellement différent de ce qui se passait avant, sauf que c'est plus prégnant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'hétérogénéité et surtout beaucoup plus de prescription d'objectifs, avec souvent un sentiment, et c'est pas qu'un sentiment, de sous-prescription, c'est-à-dire que les enseignants, ils nous le disent fréquemment, c'est-à-dire qu'il faut réaliser de plus en plus de choses, faire de la différenciation pédagogique, s'occuper de chacun, mais on a le sentiment d'avoir peu de moyens finalement, en tout cas peu de prescriptions de moyens pour atteindre ces objectifs-là. Et ça, quelque chose que j'ai déjà dit, c'est des enseignants de plus en plus en insécurité. Quel accompagnement ? L'insécurité, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu. Tout à l'heure, je disais qu'on avait obtenu de la part de l'inspectrice 3 heures, 6 heures de concertation pédagogique. Et c'était des heures de monologue pour nous. C'est-à-dire que c'était assez terrible. Lorsqu'on interrogeait des collègues, on se disait « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Rien. Et pourtant, c'est des gens qui faisaient des choses dans leur classe. Je veux dire qu'il y avait des initiatives, qu'il y avait une réflexion pédagogique, mais on avait des réunions de concertation qui étaient souvent à sens unique. Ça faisait vraiment problème. On a essayé un petit peu de creuser les choses avec certains enseignants, et la plupart nous ont répondu, mais moi, si je dis ce que je pense, je vais toujours avoir l'impression de mettre en porte-à-faux un collègue, ou vraiment de le déconsidérer. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu surpris. Je ne pensais pas que autant il y avait ce sentiment d'insécurité prégnant, autant je n'imaginais pas qu'il y avait une telle difficulté du débat pédagogique. C'était intéressant là, justement Néopass. Hein, j'ai pas pris la parole ce matin parce que je savais que j'avais un petit temps de parole cet après-midi. Dans ce que j'avais noté sur mon cahier, c'était, je trouve, que cette mise à distance, c'est-à-dire que dans Néopass, mais ça a été redit hein, par des collègues, cette mise à distance, c'est-à-dire que autant l'analyse de pratique, je veux dire, ça implique quand même les gens qui participent, autant le travail sur la vidéo. Et puis avec les réactions, l'autoconfrontation, les réactions des profs chevronnés et puis des chercheurs, il y a une vraie mise à distance qui, à mon sens, peut susciter quand même le débat pédagogique. Donc on avait ce vrai problème de débat pédagogique finalement, c'est-à-dire que et peut-être que le modèle prescriptif d'action formation qu'on avait avait aussi sa part de responsabilité. Alors, pas seulement, lorsqu'on voit aussi les relations, je veux dire, à l'intérieur du réseau, il y a des choses qui surprennent. Par exemple, la vision des conseillers pédagogiques, ça c'est quelque chose que j'ai découvert en venant travailler sur le premier degré. Je suis sur un réseau où il y a des conseillers pédas vraiment extrêmement compétents, extrêmement affables. Et j'ai quand même des jeunes collègues qui ont une crainte, en fait, de la visite du conseiller pédagogique. Déjà, ils disent tous, la semaine prochaine, je me fais visiter. Alors, généralement, je leur demande si c'est douloureux. Moi, je fais partie des gens qui pensent que les mots font sens. Donc, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'ils emploient tous cette expression, quoi. Je veux dire, je me fais visiter. Il y a quelque chose, quand même, de l'introspection. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a à travailler là-dessus, quoi. Dernière chose, principe de réalité, un temps de concertation toujours précaire. Et voilà, c'est une réalité. On peut pas l'étendre, je veux dire, dans le champ de la professionnalité enseignante telle qu'il existe actuellement. Et il va falloir faire avec tout ça. Donc il y a l'idée qu'on va partir de ces principes de réalité et qu'il faudra bien faire avec, qu'on ne va pas pouvoir dépasser certaines choses. Donc comment on s'y prend ? Alors on est parti de se dire qu'il y avait sûrement des choix stratégiques, qu'à partir des questionnements et puis des petits principes de réalité là qu'on a pu énoncer, qui avaient sûrement des choix stratégiques à faire. Le premier, il est pas du tout neuf. Hein. Identifier les leviers importants dans les apprentissages, c'est déjà une réflexion, je pense, qui était assez mûrie sur le réseau. On avait déjà, je dirais, beaucoup de littérature à notre disposition, qu'on avait déjà pas mal fouillé. Qui nous permettait un petit peu de faire déjà des choix, il me semble, relativement pertinents dans les contenus d'apprentissage et dans les démarches. S'appuyer sur les travaux de recherche, on le faisait déjà un petit peu, l'idée c'est de le faire encore un peu plus, les publications, ça paraît vraiment comme une nécessité, et ça paraît d'autant plus comme une nécessité que... voilà, éclair, je crois que c'est école, collège, lycée, pour l'ambition, l'innovation, la réussite, et que c'est des notions actuellement qui me semblent un peu brouillées, c'est-à-dire que actuellement, innovation, expérimentation, c'est collé un petit peu à tous les projets qu'on voit éclore en ZEP, hein, pratiquement, lorsqu'ils sont suivis au niveau académique, et quand on les regarde un petit peu dans le détail, bien souvent, il n'y a pas d'innovation, c'est souvent de l'expérimentation, et parfois de l'expérimentation qui peut être inutile. J'ai visionné une vidéo, celle que tu as montrée ce matin à Patrick, qui était la jeune collègue, je crois qu'elle s'appelle Alban, qui parle sur la méthodologie. Et moi, j'ai eu par ailleurs, je veux dire, par le biais de Dominique Bucheton, une version un peu étendue du truc. Hein. Et en fait, elle est dans un projet pédagogique, je crois, où il y a un prof, un ancien du collège, un prof de maths, qui les entraîne hein, vraiment sur un travail sur la méthodologie, un travail vraiment métacognitif. Et j'ai pas retrouvé la vidéo, je crois pas qu'elle soit sur le site, où on voit des élèves qui sont complètement dans la panade, quoi, les pauvres, hein, c'est-à-dire qu'on leur présente un schéma un petit peu métacognitif de comment on s'y prend pour faire ses devoirs, mais hors support, hein, ce qui est un peu aberrant. Et on voit les pauvres élèves en difficulté, les yeux grand ouverts, se demander mais qu'est-ce qu'ils me racontent. Voilà. Donc, et ça, c'est. Je crois qu'on est dans une phase où on peut plus forcément se permettre tout. Moi, je me suis un peu tout permis à mes débuts, et que il y a quand même beaucoup de ressources de recherche sur lesquelles on doit s'appuyer. Prendre en compte la diversité enseignante. Alors ça, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est bien accepté maintenant pour les élèves, ça, de prendre en compte la diversité des élèves. Pour les profs, je suis pas sûr. Ouais, c'est pas certain. Je veux dire, quand on discute hein, comme ça avec les métiers intermédiaires, voilà, il y a des réflexions du type, bah celui-là, on va pas en tirer grand-chose. Genre de réflexion qu'on n'accepterait plus beaucoup pour les élèves. Mais bon, voilà. Mais il y a quand même l'idée que tout n'est pas possible avec tout le monde. Si on peut différencier, je dirais, pour les élèves, pourquoi on ne pourrait pas différencier pour les enseignants? Voilà. Donc ça aussi, partir de cette idée-là, ça paraissait quand même pas tout à fait idiot. Et d'autant plus que, je veux dire, ce constat qui faisait qu'avec certains enseignants, on ne pouvait pas, je dirais, clairement, avoir de profit sur les apprentissages des élèves. Donc là, finalement, ça veut dire qu'il faut faire différemment. On n'a pas le choix. Là aussi, on a changé un petit peu notre fusil d'épaule. C'était de proposer un catalogue d'actions restreint. C'est-à-dire que plutôt que d'imposer des choses, hein, c'est proposer des actions sur lesquelles on avait des outils pertinents, mais aussi cohérents avec les pratiques de classe. Des choses qui étaient a priori déjà possibles de mettre en place. Voilà, pas impossible en tout cas. Donc le choix des outils, c'est important. On a des travaux de recherche et on a des démarches de chercheurs qui sont différentes. Hein. On a des chercheurs qui, je dirais, produisent des résultats et produisent en même temps les outils qu'on peut mettre en place en classe hein, et des outils qui ont été expérimentés. D'autres, et c'est pas les opposés, hein, je veux dire, qui produisent pas d'outils. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant, mais ça signifie qu'on peut pas débarquer comme ça dans la classe en disant « Ah, voilà, ça, tu devrais lire ça. » Eh oui, mais si on n'a pas les outils et pour les mettre en place, hein, s'ils sont pas encore faits ou si on n'est pas encore sur des outils, je veux dire, cohérents, je veux dire, avec les pratiques de l'enseignant, ça devient difficile. Un gros changement, c'était de passer à une logique de volontariat. Alors ça, c'est culturellement pas très très présent, je pense, dans l'éducation nationale. Il y a un peu, souvent dans les réseaux, la logique de la même chose pour tous. Et au départ, lorsqu'on a lancé les modules, ça dépassait notre réseau. Hein. C'était sur toute la... je me souviens que les premiers modules en fait, de compréhension aux grandes sections qu'on menait, c'était essentiellement... qui était essentiellement axé sur les implicites, il y avait une volonté de les mettre en place sur toutes les écoles des trois réseaux d'éducation prioritaire de la circonscription. Voilà, c'était assez énorme. Et sur le fonctionnement, malheureusement, faut beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Beaucoup de temps de libérer de la part des conseillers, de l'inspectrice pour que ça fonctionne. Voilà. Donc là, l'idée, c'était plutôt de se dire, on va faire déjà, commencer à faire avec ceux qui sont volontaires et voir ce que ça donne. Et une fois qu'on a les volontaires, ben, c'était vraiment de contractualiser les modalités d'action avec eux. C'est-à-dire plutôt que de dire, voilà, ben, on va faire comme ça. C'est ben, d'enclencher une discussion, de dire ben, toi, comment tu vois les choses? Ben, moi, j'ai des propositions. Voilà, on a des enseignants d'appui, on a des assistants. Voilà ce qu'on pourrait faire ensemble. Catalogue d'action, ça, c'est le catalogue d'action pour l'élémentaire. Hein, ça ne concerne pas la maternelle telle qu'on l'a édité. C'est quelque chose qui a été voilà, un document qui a. Je ne vais pas le détailler, hein, je ne vais pas le relire. Hein, de toute façon, il sera mis en ligne sur le site. Mais c'est juste de... Donc on a toujours appelé ça module, voilà. On a mis des modalités de possibles de mise en œuvre. Donc ça, c'est, ça aussi, c'est bien différent, possible. Avant, on aurait mis modalité de mise en œuvre. Et puis, des exemples d'outils. Voilà, c'est-à-dire que déjà, on propose des actions sur lesquelles on a des outils, sur lesquels on pense avoir déjà une expérience, une petite expertise, et puis même une expérience de savoir-faire. Voilà, parce qu'on les a déjà mis en place antérieurement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a production d'écrits. Ça ne faisait pas partie de mon catalogue au début. Et en discutant avec les enseignants, tous, absolument tous, disent « c'est un truc qu'on n'arrive pas à faire en classe entière ». Donc, je dis, bah, écoutez, moi, j'ai pas encore fait. Je veux dire, à part une fois en maternelle, mais j'ai pas vraiment d'expérience là-dessus. J'ai quelques outils, voilà, qui traînent, hein, mais voilà, bah, écoutez, on va le mettre en place. Hein. Déjà, on va apporter des moyens supplémentaires. Je sais pas si on aura les outils, mais on aura déjà les moyens supplémentaires avec l'appui des assistants pédagogiques. Donc, on voit que là, on est dans une logique qui est pas forcément descendante, qui peut être ascendante. Où on a des collègues qui nous disent bah, c'est bien que tu nous proposes un catalogue d'action, mais nous, il y a vraiment des problématiques hein, sur lesquelles on a des difficultés. Et on souhaiterait un appui là-dessus. La contractualisation, c'est un document. Et là, ben c'est. Je crois que j'en ai déjà vu les effets, finalement, parce que là, on a eu du débat pédagogique. C'est-à-dire qu'on arrive avec une fiche vide, et on se dit, ben voilà, il y a des objectifs, il y a des problématiques qui sont enseignées par les enseignants des classes, et puis on essaye de mettre tout ça en correspondance, et on ne décide pas à l'avance, ni des objectifs, ni de la mise en place, ni de la façon dont on va planifier les choses, on va le faire ensemble. Donc il y a... Il y a des discussions, on peut avoir du conflit, et c'est là justement où on est sur le métier, hein, comme tu disais ce matin. Voilà. Alors je vais essayer d'accélérer. Hein. Il me reste deux diapos. Alors, quelle logique de formation, nouveau positionnement au sein du réseau, essayer de sortir de cette position de prescripteur. Alors, j'ai mis affiché clairement certaines compétences, hein, mais c'est pas dire voilà, ça je sais faire, vous avez qu'à me suivre. D'abord, quand on affiche clairement certaines compétences, c'est aussi afficher celles qu'on n'a pas. Donc, je dirais qu'il y a un peu de clarté là-dedans et puis un peu d'honnêteté intellectuelle aussi qui nous est utile. Mais c'est aussi de dire aux collègues, bah, vous aussi vous en avez, il va falloir qu'on partage. Et ça, c'est l'outil de contractualisation qui va permettre de le faire. Jouer le rôle d'interface entre les ressources de la recherche et le travail en classe ou hors la classe. Là aussi, je me suis affiché un petit peu comme ça en début d'année. Ça a pas mal modifié les choses. On a fait reculer un peu cette défiance qu'il y avait à l'égard, pas tous les collègues, hein, mais à l'égard un petit peu de la recherche. Et là-dessus, ça nous a permis d'avancer. Former en faisant ensemble, là aussi... c'est de dire, ben voilà, je sais pas, l'explicitation par exemple, en calcul mental, un collègue qui dit je sais pas faire, ben, écoute, on va faire ensemble. On va le faire ensemble, on va le concevoir ensemble et on va le faire ensemble en classe. C'est ce qu'on est en train de faire là actuellement, on a démarré en début de semaine. Et ça, dans la logique de formation, il me semble que c'est intéressant de dire, voilà. On fait ensemble, de la même façon qu'on étaye pour les élèves, qu'on dit, ben voilà, il y a un moment. Faut montrer voilà, sans faire à la place hein, bah là c'est un petit peu du même ordre. Des initiatives de formation j'ai pu utiliser Neopass là, et notamment l'outil de formation qui était proposé par Dominique Bucheton, le multi-agenda co-animé en classe. Donc tout ça c'était aussi d'aller vers les pilotes et de leur dire voilà, moi j'ai besoin de petits temps sur le temps du midi, sur certaines heures, pour pouvoir commencer à faire ce travail de formation. J'ai demandé aussi au CPC qui était à l'inspectrice de mettre sur les animations pédagogiques hein, samedi matin. Ce qu'il y a trois animations pédagogiques, hein, j'ai pas pu tout faire d'ailleurs, calcul mental, catégorisation, résolution de problèmes. Ce qui était intéressant là-dedans, c'est que c'était une animation qui était pas seulement pour le réseau, c'est-à-dire qui était pour la circo. Et pour le coup, là, on avait une mixité au niveau des enseignants qui faisait qu'on a résolu ce problème de dynamique. C'est-à-dire que nos réunions de concertation, qui bien souvent, je dirais, étaient à sens unique avec un discours prescripteur et puis finalement peu de débats pédagogiques et qui tournaient autour de l'organisationnel, eh bien là, pour le coup, on a eu une mise en action et avec un public plus large, un petit peu plus de, je dirais, de débats et puis de contributions. Alors, je vais finir là-dessus. Des petites anecdotes. Ça fait un peu slogan publicitaire. Des petites choses attrapées au vol. Une histoire de poème. Stage interdegré de cette année, pas très bien préparé. Voilà, on nous demande, comme ça, un peu au pied levé, d'imaginer des actions dans le champ de la compréhension, de la lecture, des mathématiques, tout ça. Je me retrouve dans un groupe sur la compréhension, la lecture. Et puis, bah, ça démarre comme ça démarre souvent. Et c'est ça qui interroge aussi cette logique de projet en ZEP. Avec une collègue qui dit, bah tiens, ça serait peut-être bien là qu'on fasse le printemps de poète cette année, même si il est un peu menacé. Oui, bah écoute, très 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 bonne idée. Et on commence un petit peu à débattre là-dessus et d'avoir les trucs classiques de se dire, bah tiens, il n'y a qu'à faire un échange avec un CM2, une sixième. Il y a des CM2 qui vont aller lire des poèmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le collègue dit, bah voilà, comment on va faire? Bah, ce qui serait peut-être bien, c'est que classe de sixième fasse un choix de poèmes. Ils viennent les lire en primaire et puis ils vont expliquer pourquoi ça leur plaît. Et ça peut continuer comme ça. À un moment, moi, je suis là, je dis stop. Voilà, je dis, ils vont expliquer. Ah, et ça va se passer comment quand ils vont expliquer leur choix? Alors moi, je sais comment ça se passe. Et alors, tu sais pourquoi tu as choisi ce poème? Ben, je l'ai choisi parce que je l'ai choisi. D'accord. Et pourquoi tu l'as choisi? Parce qu'il me plaît. Mais pourquoi il te plaît? Ben, parce qu'il me plaît. Enfin, on connaît ça, quoi, en ZEP. C'est-à-dire que cette utilisation dans un code restreint et cette difficulté à argumenter, voilà. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Ça, c'est un point d'accroche, et c'est là-dessus qu'il faut s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment, se dire, eh oui, mais c'est bien ça qu'il va falloir travailler ensemble, c'est bien ça, c'est comment, je veux dire, on va préparer une séance pédagogique, je veux dire, sur l'argumentation du choix d'un poème. Et ça, c'est des choses qui passent systématiquement, je dirais, à la trappe. C'est-à-dire que dans cette logique de projet, enfin, en tout cas que moi j'ai pu voir en ZEP, c'est que souvent ça fourmille d'idées et qu'on passe à côté de petits points d'accroche extrêmement précis et qui peuvent avoir une vraie incidence. Donc dans les choix stratégiques après des actions, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Un autre petit truc saisi au vol, dans la contractualisation que j'avais sur le calcul mental, c'est des collègues qui m'interpellent, qui sont assez nombreux, de dire en calcul mental, on a un peu de mal à faire une progression en calcul mental. Pour cause, hein, c'est compliqué. Et puis dans la discussion, le truc, et ça c'est pas, on n'entend pas ça qu'en ZEP, on l'entend partout, ils ne connaissent pas leur table, hein, c'est un problème. C'est un problème, oui, c'est un problème, d'autant plus que les tables, hein, on sait bien tous que c'est le travail des parents, ça. Et comment on fait pour ceux que... bah oui, hein. Comment on fait pour les autres? Voilà, c'est ça qu'en tant que prof d'appui, j'ai envie de saisir au vol. Je veux dire, bah, écoute, c'est intéressant, on va se donner un objectif. 100% des élèves à la fin de l'année savent leur table. Parce qu'on a des outils pour ça, parce qu'on a des moyens pour ça, parce qu'on a des gens. Et pourquoi je saute là-dessus? Parce que c'est stratégique, justement. C'est-à-dire que, en tant que prof de maths, hein, je sais bien que les tables, c'est un point d'appui incontournable pour pouvoir faire du calcul mental. Et que le calcul mental, il est fortement corrélé à la réussite en mathématiques en général. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit en troisième des élèves qui ne peuvent même pas se servir de leur calculatrice comme bouée de secours, tellement ils n'ont pas d'idée de la façon dont on peut décomposer des nombres. Donc, il y a vraiment un point d'appui là-dessus. Donc c'est un petit peu là-dessus, je dirais, qu'on contractualise les choses de façon efficace. Et puis dernièrement, j'ai parlé un peu du temps de concertation. Et là, ça va toucher un petit peu aux problématiques de pilotage. Le temps de concertation est trop précieux, oui, parce qu'il est déjà restreint. Et lorsqu'on on peut l'étendre, hein, parfois, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que connaissent, je pense, tous les acteurs de ZEP, hein, les temps banalisés, de temps en temps, on fait sauter des cours comme ça, parfois trop, afin de pouvoir libérer des temps de concertation si précieux. Et finalement, je m'aperçois qu'ils sont souvent dévolus, ces temps de concertation, à des problèmes techniques, à de la communication entre pilotes, personnel de direction, les enseignants, et presque jamais à du temps pédagogique. Lorsque j'ai pu faire ma petite animation de 40 minutes, qui est juste un début là, sur le multi-agenda de Némique Bucheton, j'ai deux collègues qui viennent me voir à la fin de l'heure, ils me disent mais ça devrait être obligatoire ce truc. Je dis mais pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Je dis ça fait 4 ans que j'essaie de le placer. C'est un peu de ma faute, hein, d'ailleurs. Hein. C'était aussi dans ce problème de positionnement que j'avais, de se dire que non, fallait peut-être aller voir les pilotes et dire voilà, ça c'est prioritaire, ça c'est intéressant. Et finalement, depuis le début de l'année, on a dégagé, je crois, 3 heures de temps banalisé, et elles ont été toutes utilisées pour des problèmes techniques, aucune pour du temps pédagogique. Hein. C'est-à-dire que là, pour l'instant, le temps pédagogique, il est pris sur le temps du midi. Ce qui est un problème pour les enseignants, puisque c'est un temps supplémentaire, hein, je veux dire, sur leur temps de repos. Voilà. Je vais pratiquement m'arrêter là. Je vais juste deux mots là sur la difficulté justement de travailler sur cette plateforme Neopass. Pour l'instant, pour moi, elle est là. C'est-à-dire que sur quel temps on va faire ça, alors que là, pour le coup, il y a véritablement un outil. Qui moi me semble tout à fait pertinent et potentiellement efficient pour l'évolution des pratiques. Voilà.
Alors un double merci. Effectivement, désolé de te presser un peu, mais le temps est la denrée la plus rare dont nous disposons, comme tu viens de le dire. D'abord un premier merci pour te signifier à quel point je pense un certain nombre de choses que tu as travaillées dans ton intervention sont en résonance assez précise avec des thématiques que nous avons abordées dans les jours précédents, et tu n'étais pas forcément là pour le voir, et on n'en a pas forcément parlé. Et deuxièmement, pour faire quelque chose qui nous semble vraiment le but que nous poursuivons dans les formations que nous menons ici, c'est-à-dire que quand on est venu dans la salle comme stagiaire, le but pour nous, c'est qu'on puisse revenir l'année suivante en disant ben voilà ce que j'ai fait de ce que je suis venu picorer ici ou là, qui a renforcé ce que je faisais déjà, non pas parce que la formation à l'IFE a transformé ma vie, mais parce qu'elle m'a donné un tout petit bout de grain qui a fait que j'ai, et tu as insisté sur le fait que ce qui avait été constitutif de ta démarche aussi, c'était le travail d'écriture que vous vous êtes imposé avec ta collègue suite à une formation où vous avez accepté de rentrer dans une démarche de validation d'acquis, et où c'est cette démarche d'écriture qui correspondait à un moment donné à votre besoin professionnel. Vous vouliez réfléchir ensemble pour se dire comment on dépasse cette contradiction. On est dans quelque chose qu'on est en train de faire dans notre métier, on n'arrive pas vraiment à le faire, on se pose, on discute et on avance, et comme tu viens de le dire à l'instant, quitte à ce qu'on se demande comment est-ce qu'il faut qu'on change un tout petit peu notre positionnement. Et tu t'appliques à toi-même ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on n'attend pas les grandes révolutions, c'est avec ce petit changement de posture qu'on se dit, eh ben oui, il faut que j'aille voir le pilote pour lui dire, tu sais, dans mon travail de métier intermédiaire, je veux bien aider à piloter avec toi. Bah, évidemment, il y a des contextes qui font que c'est plus ou moins favorable, etc. Donc, vraiment ce double merci pour ces deux choses-là, et d'avoir pris le temps de nous expliquer dans le détail un certain nombre de choses dont je ne doute pas que les collègues vont te demander maintenant de rentrer dans un certain nombre de précisions ou d'éclaircir certaines des questions que tu n'as pas eu le temps de préciser. On prend le temps de cet échange. pendant le temps qui vous semblera nécessaire avant que on voit un autre exemple. Mais il me semble que justement ces situations-là exemplifiées sur des territoires, elles montrent bien comment l'ensemble des questions sont toujours là. Ça montre une façon de les travailler parmi d'autres.